franceinter.com. Au fil de l'histoire, Patrick Liégibel, 1936, Les congés payés, de Anne Jolivet. Réalisation, Jacques Taroni.
Payé à rien faire, on n'aurait jamais cru. Bonnes vacances, les gars.
J'ai 50 ans, j'ai jamais vu la mer ni la montagne. J'ai visité le nord et l'est de la France, mais c'était à l'occasion de la guerre. Tu parles d'une rigolade.
On va enfin connaître notre pays autrement que par les livres de géographie. Pince-moi, je crois que je rêve.
Et j'ai pas foutu les pieds hors de l'atelier depuis des années. Vive la vie !
L'avenir nous appelle.
C'est grâce à une loi votée sous le Front populaire en 1936 que les congés payés furent rendus obligatoires. Comment cette idée s'instaura-t-elle dans la tête des Français et dans celle de ses dirigeants politiques, alors que depuis le début des années 30, la France doit faire face à une dépression économique de grande ampleur et à la généralisation des grèves? Lorsque Hitler devient chancelier en janvier 1933, Léon Blum jouit d'un prestige formidable au sein des troupes socialistes de la SFIO. Et c'est lui qui va mener le combat des congés payés, entraînant pour la première fois dans l'histoire du monde une amélioration de vie pour toute la classe ouvrière. Malheureusement, dès le début du combat, le parti se divise. La droite socialiste, déjà gangrenée par l'idéologie fasciste, résiste et se montre exaspérée par la direction du parti et par Léon Blum en particulier. Des hostilités sourdes et personnelles apparaissent au grand jour. Certains, comme les députés Adrien Marquet et Marcel Déa, vont jusqu'à mettre la lucidité de Léon Blum en doute.
Notre pays traverse une crise grave. Mais les causes économiques ne sont pas seules responsables des grèves qui se sont généralisées. Le mécontentement populaire grandissant est aujourd'hui fortement lié à la réalité de la condition de la vie ouvrière. La fatigue, la monotonie, l'ennui, la peur, le sentiment d'être retranché du monde dans cet univers de banlieue aux murs lézardés et aux terrains vagues. Si le gouvernement maîtrise la situation en faisant confiance à la volonté populaire, il peut compter sur nous. S'il faillit à son devoir, c'est nous qui lancerons un appel au peuple tout entier. Mais je vous le dis, mes amis, la réaction fasciste ne passera pas.
Ordre, autorité, nation.
Bravo!
C'est le triptyque que nous vous proposons pour faire barrage au fascisme. Car vous parlez beaucoup, monsieur Blum, mais vous n'agissez pas. Vous n'avez d'ailleurs aucun sens de l'action.
Ce ne sont pas des propos de socialistes que vous tenez là, monsieur Marquet. Je ne vous comprends pas.
Permettez, chacun a le droit d'exprimer ses idées. Il m'arrive à moi aussi de ne pas vous comprendre. Mais je n'ai pas comme vous l'orgueil de croire que j'ai raison contre tous.
Vous prétendez lutter contre le fascisme. Et pour ce faire, vous lui empruntez ses propres armes. Et pire encore, son idéologie. Moi, je vous dis que tout ce qui contribue à intensifier le sentiment national, à lui donner un caractère d'animosité et de méfiance, contribue à créer un milieu favorable au développement du fascisme.
Le spectre de la misère guette nos travailleurs pendant que des étrangers se gaffent chez nous. On se rétende les foutre dehors. La France aux Français.
Je connais votre trivialité, monsieur le député Déa, mais je suis épouvanté.
Vous croyez encore à l'établissement de relations internationales? Selon vous, c'est le moyen de constituer une humanité harmonieuse et pacifiée.
C'est vrai.
Utopie, monsieur Blum. Nous sommes aujourd'hui en droit de remettre en question la tactique, la doctrine et la philosophie même du socialisme.
L'enjeu est simple. Préserver la démocratie contre l'infiltration des méthodes fascistes. Mais pour ce faire, je vous en prie, messieurs, gardons-nous de flatter les instincts immédiats des masses populaires, comme le font ceux que nous combattons.
Croyez-vous, monsieur Blum, que cette dialectique consolera ceux qui sont aujourd'hui martyrisés par l'hitlérisme et le fascisme.
Votre question n'appelle aucune réponse. J'en ai terminé, messieurs.
Oh, c'est passé.
C'est vous, avec votre subtil byzantinisme, qui nous menez au fascisme. Moi qui vous connais bien, je sais quelle est votre passivité tout orientale. L'action est l'opposé de ce que vous êtes.
Vous pensez bien que je ne vais pas en rester là. J'ai été compréhensif et confiant, mais la manière de faire va changer, je vous le jure. J'aurai le dernier mot.
Sur Déa, Marquet et leurs amis, les idées de Blum étaient arrêtées depuis longtemps. Les néos, comme on les appelait, fondèrent leur propre parti et les attaques antisémites à l'encontre de Léon Blum se firent de plus en plus violentes. Thérèse Blum, militante socialiste convaincue, croyait en son mari et participait à son combat. Elle voulait à tout prix le protéger et ne le quittait jamais.
Thérèse, ralentissez, s'il vous plaît.
J'adore conduire. Et notre Citroën est une traction avant-dernier modèle. Vous ne craignez rien. Et puis je ne veux pas faire attendre les Grunebaum Balin qui déjeunent à midi précise. Il nous reste 20 km avant d'arriver au Ménul. Nous sommes partis trop tard, citoyen Léon.
Eh bien, je préfère arriver à midi et demi, mais entier.
Je n'ai pas l'intention de nous mener dans le fossé, car je n'ai aucune envie de faire plaisir à Maurras qui vous souhaite mort.
Et il me traite de détritus humains, de monstres, de sorciers, de sadiques, de reptiles qui crachent son venin et sèment la terreur.
Il vous déteste, car vous êtes de ceux qui lui font sentir sa vulgarité.
C'est douloureux à vivre, Thérèse. Il dit que je suis le premier juif qui sera abattu comme un chien. Il appelle les gens à me tuer avec ce qu'ils ont sous la main. Un pistolet automatique, un revolver ou même un couteau de cuisine. Tant de haine contre moi. C'est terrible, non?
Ne les écoutez pas, Léon. Poursuivez ce que vous avez commencé. Vous êtes un grand citoyen et vos idées triompheront.
Rechandez la grève du printemps, ça boum.
Alors écoutez, ceux qui... Pendant tout le mois de janvier 1934, la récession prend de l'ampleur, touchant plus particulièrement les ouvriers, les agriculteurs et les classes moyennes. Les électeurs perdent confiance dans le parlementarisme et des scandales financiers, tels que l'affaire Stavisky, achèvent de compromettre le régime. Une atmosphère de violence et de haine est entretenue par les ligues et les journaux d'extrême droite, qui organisent une gigantesque manifestation dans Paris, au cours de laquelle on dénombre une vingtaine de morts et une centaine de blessés. Le 12 février, la CGT décrète un jour de grève générale. Maurice Thorez appelle à la formation d'un front populaire et Léon Blum et ses amis se rallient à la stratégie du front unique qui scellera l'unité d'action entre socialistes et communistes derrière l'unité ouvrière, tandis que les antisémites, la droite monarchiste et cléricale et les boulangistes se mobilisent de leur côté.
On m'a assuré que le juif Blum vit dans un appartement luxueux avec vue sur la Seine. Il a accepté de prêter quelques carafons, sucriers, pots de confiture munis de supports en vieil argent aux organisateurs de l'exposition de vieille argenterie qui vient d'avoir lieu à Paris.
Ouais, facile de défendre les pauvres dans ces conditions.
Blum ne vous coupe pas l'appétit en tout cas. Vous avez un sacré coup de fourchette, Déa.
Je fais honneur à la gastronomie de mon pays. Je suis français.
Au moins, vous êtes de quelque part. Contrairement à ce juif qui n'est ni du nord, ni de l'est, ni de l'ouest, ni du sud, ni du centre. Quelle est sa famille? De quel terroir est-il? Quel est son cru?
Le sang et la guerre, Marquet. C'est un détritus qui n'est pas de chez nous, comme dit Jouandeau.
Entre l'évadé de Palestine et la France... Le choix est facile à faire.
Le 13 février 1936, en rentrant chez lui, Léon Blum est pris à partie par des sympathisants d'Action française. Il est injurié, roué de coups et blessé à la tempe. Le 16 février, en réaction à l'attentat, plus de 250 000 personnes défilent du Panthéon à la Bastille. Et aux élections législatives d'avril et de mai 1936... L'union électorale permet à la gauche d'emporter les élections avec plus de 60% des sièges socialistes. C'est le triomphe du Front populaire qui doit nommer Léon Blum chef du gouvernement.
Nous avons voté pour que ça change tout de suite et on continue de mariner dans la débine. Ça suffit!
Aujourd'hui, la France entière est mobilisée. La grève a commencé le 11 mai chez Breguet au Havre, suite au licenciement de deux ouvriers qui ont refusé de travailler le 1er mai. Deux jours plus tard, c'est l'ATECOR à Toulouse qui s'arrête de travailler. Et le 24 mai, nous sommes 600 devant le mur des fédérés pour rendre hommage aux victimes de la Commune et pour exprimer nos revendications.
Aujourd'hui, Boulogne-Billancourt est en grève. De nombreuses entreprises de moins de 10 salariés ont suivi le mouvement. Et aux Galeries Lafayette, on déploie des banderoles de solidarité à notre mouvement.
Il faut mettre fin au fascisme et à l'arbitraire patronal, mes amis.
De la naissance à la mort, nous autres ouvriers sommes tributaires de nos employeurs, non seulement pour le travail, mais pour tout ce qui concerne nos vies. Mon beau-frère travaille chez Schneider, au Creusot. Les logements, le gaz, l'eau, la salle des fêtes, l'hôpital, l'école, tout appartient à Schneider. Celui qui perd son boulot perd tout. Alors, les ouvriers baissent les chines et vont à la messe le dimanche parce que le patron y va.
12 heures de travail, 6 jours par semaine, ça suffit. Nous ne sommes pas des bêtes. Nous demandons une augmentation des salaires et une diminution du temps de travail.
Les femmes sont sous-payées.
Un travail égal, salaire égal pour toutes les femmes.
Nous ne voulons plus voir nos enfants travailler. Leur place est à l'école, dans les stades, dans les bibliothèques. Et partout où ils pourront s'épanouir.
Occupons nos usines, nous ferons les sentinelles comme en 14.
Organisons des comités de grève, des bals et des banquets dans nos ateliers. Faisons de notre combat une fête, sans violence et sans dégradation du matériel. Exigeons aussi le droit de travail pour les immigrés.
Le Front populaire doit changer les mentalités. Nous voulons le pain, la paix et la liberté pour tous.
Une bonne nouvelle vient nous arriver. Tous les ateliers sont arrêtés chez Citroën et Monsieur Jacques Prévert nous soutient. Lui et son groupe Octobre se produisent dans les usines en grève. À ses côtés, Marcel Mouloudji, Francis Lemarque, Joseph Cosma, Liva Legret et la plupart des artistes que nous admirons lisent des textes d'Éluard et d'Aragon. Hier, ils ont joué La famille tuyau de poêle, une pièce que Prévert vient d'écrire pour dénoncer les travers de la bourgeoisie.
Notre mouvement est populaire dans tout le pays. Il faut maintenant qu'il dépasse les frontières. Tout est perdu, sauf le bonheur, camarades.
Debout les forçats de la faim, la reine.
C'est sa patiente. Pourquoi attendre un mois avant de prendre vos fonctions?
Parce que c'est le délai prévu par la Constitution.
Mais c'est la volonté du peuple qui compte. Croyez-vous que les fascistes agiraient comme vous?
Non, mais justement, nous ne sommes pas des fascistes.
Alors ne perdez pas une minute. Prenez des contacts pour former votre gouvernement.
C'est ce que je fais. Et j'ai une nouvelle qui va vous faire plaisir. Notre fidèle Grünbaum a accepté d'être mon conseiller personnel dans cette aventure.
Vous et Grünbaum, c'est fantastique. Si j'osais, je dirais qu'une voie royale s'ouvre devant vous pour mener à bien vos réformes, citoyen Blum.
Je ne sais pas si j'ai les qualités d'un chef dans une bataille aussi difficile, mais la résolution, le courage et la fidélité ne me manqueront jamais. Je ne peux travailler qu'avec des gens que j'estime et que je connais bien. J'ai besoin de respecter leur liberté de décision. C'est comme ça et pas autrement. Et puis, vous êtes là pour me conseiller, vous aussi.
Alors, une question. Trouvez-vous normal que les femmes n'aient toujours pas le droit de vote?
Non.
Puisque nous sommes d'accord sur ce point, pensez à elles dans votre prochain gouvernement.
Mais nous y pensons.
Plus sérieusement, Léon, mon sentiment est qu'il faut agir avant que la situation ne s'aggrave.
Je ne ferme pas les yeux à la réalité, mais il faut être prudent. Le président Lebrun est inquiet. Il m'a fait venir à l'Élysée pour me demander de renoncer à prendre la tête du gouvernement. Car il sait que la droite va faire tout pour m'affaiblir, il le sait. Dans Candide, Pierre Gaxot signe un article infâme.
Candide est un torchon.
Il écrit que j'incarne tout ce qui révulse le sang et donne la chair de poule. Il conclut en disant que je suis le mal et la mort.
Vous respectez le peuple. C'est ce qu'il déteste chez vous.
Les Jouandeaux me préfèrent Hitler. Mais je ne me laisserai pas abattre. Je sais que chaque jour compte, car les dernières cartes se jouent. Et celui qui les tient en main sera responsable devant le peuple et devant l'histoire. Rassurez-vous, si la situation s'aggrave, nous n'attendrons pas le 4 juin pour gouverner, nous utiliserons la manière forte.
On s'imagine toujours vous connaître, et on croit toujours vous découvrir. On est fiers de vous, citoyen Blum.
Réaliser ses rêves de jeunesse à l'âge d'homme, c'est peut-être ça, le bonheur. Un petit tour à la campagne nous ferait du bien. Vous avez une toute petite mine.
Je suis en pleine forme. Notre victoire me remplit de joie et me rend de plus en plus combative.
Le 3 juin au soir, 200 usines métallurgiques sont occupées et le 4 juin, Léon Blum prend ses fonctions de président du conseil.
On a bien mangé, Françoise. Merci beaucoup. Chez nous, le garde-manger est vide. C'est triste à voir.
Tant qu'il y a à manger pour nous, il y en a pour vous.
Ah, tu nous as fait un souper de roi, des patates au lard, une salade, il n'y a rien de meilleur.
Alors, régale-toi. Finis les pissenlits avant de les manger par la racine, mon Lucien.
Bon, je vais apporter de quoi manger à Jaco, si tu veux bien.
Ah, il a tout ce qu'il faut. Mais il se bouffe les sangs, le pauvre. 3 nuits de piquet de grève, ça le tue.
Sans les jaunes, on n'aurait pas besoin de piquer.
Les jaunes nous pourrissent la vie, mais les mouchards, c'est pire encore. Ils se mettent bien avec toi, ils vont tout balancer au chef du personnel.
J'ai encore jamais rencontré un jaune qui refusait ce que les grévistes avaient obtenu. Faut dire que jusqu'ici, on n'a pas obtenu grand-chose, mais tout de même. Je voudrais pas finir comme mon père. Il a commencé P2, il a fini P2. Il n'est jamais monté en grade. Jamais.
Tout ça parce qu'il était syndicaliste.
Mes chers amis.
Chut, taisez-vous, il commence à parler.
Je me présente devant vous au lendemain d'élections législatives où la sentence du suffrage universel s'est traduite avec plus de puissance et de clarté que jamais. Notre bel idéal socialiste a triomphé et nous ferons de notre mieux pour améliorer vos vies. Je représente un gouvernement qui, en parlant au nom des ouvriers, leur rend leur dignité. Mon but sera d'accroître sans cesse le rendement de l'appareil productif, de réduire sans cesse l'apport du travail humain, de répartir, selon les services et selon les besoins, une quantité sans cesse accrue de richesses et d'augmenter sans cesse le bien-être et les loisirs.
Je crois qu'on tient le bon bout, mes amis.
Mais si les uns célèbrent la victoire, du côté des néo-socialistes, on a du mal à accepter le désastre électoral.
Une réforme du statut de la Banque de France. La nationalisation de la fabrique des armes. Ah, c'est pire que ce que je pensais. Il veut faire mourir notre pays.
Vous ne mangez rien ?
Ma défaite dans le 20e arrondissement m'est restée sur l'estomac. Et ce juif n'arrange rien. Non seulement il savoure sa victoire, mais en plus, il doit se réjouir de notre désastre électoral. Les contrats collectifs, la semaine de 40 heures, et puis quoi encore?
Les heures de nuit seront majorées de 2 francs. Et qu'en sera-t-il des nôtres? Une demi-heure payée est accordée pour la pause déjeuner. Et les congés de 2 semaines seront également payés. Il nous prépare un ministère de la paresse.
Tout va très bien, monsieur le rabbin.
Léon Blum s'est bien sûr entouré de ses amis les plus fidèles pour faire appliquer les promesses faites par le Front populaire. Mais les communistes, qui se sont réjouis sans réserve du résultat des élections, refusent pourtant de prendre des responsabilités dans ce gouvernement. Ils se justifient en disant qu'ils ne veulent pas effrayer l'opinion publique en prenant part à un gouvernement bourgeois.
Même les quais de Seine sont en fête aujourd'hui. Regardez, Paris est magnifique. Quelque chose vous ennuie ?
Pas vraiment. Mais j'aurais préféré que nos amis communistes travaillent dans notre gouvernement. Et je pense à Jaurès. Il me manque. Nous avons tellement lutté ensemble. Pour Dreyfus, pour lancer notre journal. Faire exister l'humanité n'a pas été une chose simple, vous savez. Je n'ai pas le droit de le décevoir.
Vous, le décevoir ? Il serait fier, oui.
Je ne dois jamais oublier ce qu'il me répétait sans cesse. Ne faites jamais de politique sans morale. Jamais de socialisme sans démocratie. Et n'invoquez jamais la raison d'État. C'est ce qu'il pensait profondément. En fait, je suis plus sûr de Jaurès que de moi-même. Et je compte sur vous pour me rappeler à l'ordre.
Je n'y manquerai pas.
Reposez-vous, Thérèse. Vous me paraissez épuisée.
Tout va très bien, citoyen Blum.
Le dimanche 7 juin, sous la présidence de Léon Blum, dirigeants patronaux et syndicaux se réunissent. Et le 8 juin, le texte des accords de Matignon est signé. Il prévoit des augmentations de salaire pour les ouvriers, la reconnaissance du droit syndical et l'absence de sanctions pour fait de grève. Léon Blum s'est entouré de ses meilleurs amis pour « changer la vie » et s'attaque au chômage par la relance économique ainsi qu'aux loisirs des ouvriers, deux priorités du programme commun du Front populaire. Son gouvernement comporte trois grandes innovations. Trois sous-secrétaires d'État sont des femmes, alors qu'elles n'obtiendront le droit de vote que 9 ans plus tard. Pour la première fois également, on crée un sous-secrétariat d'État à la recherche scientifique et un sous-secrétariat d'État au sport et aux loisirs qui est confié à un jeune avocat, Léo Lagrange, devenu rédacteur au journal Le Populaire, organe de la SFIO.
Mon idée est qu'il ne suffit pas de donner plus de temps libre aux individus dans leur vie de tous les jours. Encore faut-il que cela serve à leur épanouissement. Il faut que l'ouvrier, le chômeur, le paysan retrouve dans les loisirs sa joie de vivre, son envie de travailler. J'ai pas mal réfléchi à la question et j'ai déjà quelques propositions à vous faire. D'abord, promouvoir le sport pour tous, ce qui veut dire éducation physique à l'école. Il faut aussi développer les lectures publiques pour aider les gens à se cultiver, les initier aux sciences. Je veux ouvrir les théâtres au plus grand nombre et nous organiserons les mardis populaires du Louvre en soirée et à tarif réduit. Il faudra développer la radio et le cinéma qui sont les arts populaires par excellence.
Vous avez le sens des réalités et j'aime vos idées.
Je crois que nous avons les mêmes. Il faut imaginer ce nouveau ministère, le créer et nous allons le faire ensemble.
Certains l'appellent déjà le ministère de la paresse.
Ceux qui prétendent qu'en proposant des loisirs aux travailleurs nous les rendrons paresseux sont ceux qui n'ont jamais travaillé. La vérité est que nous allons rendre les hommes plus humains. Bonheur et dignité.
Bonheur. Quel mot, hein ?
Le plus beau. Le socialisme doit non seulement satisfaire les besoins matériels, mais aussi aider à retrouver la joie et le plaisir de vivre. Les voyages ouvrent l'esprit, il va falloir développer les loisirs touristiques.
Les voyages coûtent cher.
J'ai une solution. Des billets de chemin de fer à tarif réduit. 40% pour tous les bénéficiaires des congés payés.
Si vous avez aussi la solution pour convaincre les dirigeants de la compagnie des chemins de fer, allons-y, parce que moi, je ne l'ai pas.
Oui. Il faut leur faire comprendre que le droit aux loisirs et aux vacances n'est pas un cadeau, mais une conquête. Et que plus les gens se précipiteront pour prendre le train, plus l'affaire sera bonne pour la compagnie des chemins de fer. Je pense aussi discuter avec les hôteliers le prix des pensions. Tout le monde a intérêt à baisser les tarifs et à faire le plein.
Objectif congé payé et billet Lagrange. Nous avons une lourde tâche.
J'ai tellement d'énergie et d'envie de travailler. L'été sera beau, citoyen Blum.
Une tasse de thé vous ferait plaisir. Ça me donnera l'occasion de vous faire admirer ma célèbre argenterie personnelle dont on parle depuis si longtemps.
Au cours de la semaine historique du 7 au 12 juin, qui a révolutionné le monde du travail, le gouvernement Blum fait voter la loi sur les 2 semaines de congés payés. Et dès le 3 août 1936, des milliers de travailleurs profitent des billets Lagrange.
Payés à rien faire, on n'aurait jamais cru. Bonnes vacances, les gars.
J'ai 50 ans, j'ai jamais vu la mer ni la montagne. J'ai visité le nord et l'est de la France, mais c'était à l'occasion de la guerre. Tu parles d'une rigolade.
On va enfin connaître notre pays autrement que par les livres de géographie.
Pince-moi, je crois que je rêve.
Et j'ai pas foutu les pieds hors de l'atelier depuis des années. Vive la vie!
Oh, quelle victoire, mes amis! Non, quel triomphe!
Quel triomphe pour la classe ouvrière, pour le Front populaire et pour les organisations syndicales. Pour le travail!
En 1939, Marcel Déa fonde le Rassemblement National Populaire, un parti qui deviendra collaborationniste. Il terminera sa carrière politique en compagnie d'Adrien Marquet dans le gouvernement de Vichy. Léo Lagrange, volontaire des deux guerres, décède au combat en 1940. En 1938, Thérèse Blum meurt d'une syncope cardiaque à la clinique Georges Bizet après avoir subi deux opérations extrêmement graves. Après la victoire de 1936, Léon Blum doit faire face à de nombreuses difficultés et à des attaques personnelles de plus en plus virulentes. Il démissionne en 1937, reforme un deuxième gouvernement en 1938, mais il est renversé trois semaines plus tard. C'est la fin définitive du Front populaire. En 1943, il est déporté à Buchenwald, il est libéré en 1945 et meurt à Jouy-en-Josas en 1950. En 1956, les usines Renault sont les premières à offrir une troisième semaine de congés payés à ses ouvriers. En 1969, le président Pompidou leur accordera une quatrième semaine. Et en 1982, c'est François Mitterrand qui offrira la cinquième semaine de congés payés aux Français. Au fil de l'histoire, Patrick Liégibel, 1936, les congés payés de Anne Jolivet, avec Vincent Grasse, Evelyne Guimara, Laurent Lederer, Philippe Ciboulet, Jacqueline Corrado, Charlie Nelson, Nathalie Canoui et Pierre Forest. Bruitage Bertrand Amiel, présentation Stéphanie Duncan, équipe technique Claude Nior et Emmanuel Armingue, assistante Anne-Laure Chanel, réalisation Jacques Taroni. Une émission que vous pouvez réécouter et podcaster sur franceinter.com. Come.